En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Mardi 24 octobre 2006 s'est déroulée la séance solennelle de rentrée des 5 académies sur le thème « L'homme et la nature ». Le président de l'Institut André Damien a introduit la séance et, selon l'usage, a fait respecter une minute de silence à la mémoire des membres des 5 académies décédés dans l'année. Après avoir précisé que les rapports de l'homme et de la nature qui étaient jadis des thèmes littéraires sont devenus une question angoissante pour l'avenir de l'humanité et que cette réflexion, cette inquiétude est une immense nouveauté pour l'histoire du monde, André Damien a rendu hommage au chancelier honoraire Édouard Bonnefousse, membre de l'Institut pendant 50 ans et pendant 17 ans chancelier de l'Institut de France en ces termes. Il est le véritable créateur de l'économie moderne. En 1970, il écrit un livre prémonitoire « L'homme ou la nature », ouvrage préfacé par Jean Rostand de l'Académie française, dans lequel, avant que le thème ne soit à la mode dans les médias, il rappelait l'urgente nécessité pour l'homme de protéger la nature contre lui-même. « En défendant la nature », écrit Édouard Bonnefousse, « l'homme défend l'homme ». Ce livre, qui avait été précédé dès 1964 de « La terre et la fin des hommes », a été suivi de plusieurs autres ouvrages sur ce thème écologique, « Le monde en danger »,« Sauver l'humain »,« Réconcilier l'homme et la nature » ou encore « L'environnement en péril ». Les académies de l'Institut de France ont pris l'habitude de solenniser leur rentrée par une série de discours consacrés à un thème. C'est une tradition ancienne et c'est ainsi que chaque année, le mardi le plus proche de l'anniversaire de la fondation de l'Institut, c'est-à-dire le 3 Brumaire en 4, soit le 25 octobre 1795, les académies délèguent l'un de leurs membres pour faire un discours sur un thème commun. Cette année, c'est le thème de la nature et de l'homme qui avait été retenu. Retrouvons sous la coupole le président André Damien donnant l'ordre des lectures des délégués des 5 académies.
Je donne maintenant la parole à Monsieur Jacques Joannat, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours intitulé « Aux racines de la nature de l'homme ».
Rendons-nous au sud de Rome, dans la crypte de la cathédrale d'Anani, dont les fresques du XIIIe siècle sont célèbres. Levons la tête vers la voûte qui nous donne une image de la place de l'homme dans l'univers en cette période du Moyen-Âge occidental. Tout est organisé en cercles concentriques, divisés en cadrans. Les deux cercles extérieurs sont ceux du monde, comprenant les quatre éléments, air, feu, terre et eau, et les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver. Les cercles intérieurs sont ceux de l'homme, petit monde ou microcosme, défini par quatre humeurs, sang, bile jaune, bile noire, phlegme, correspondant aux quatre éléments de l'univers, et par quatre âges, enfance, jeunesse, âge mûr, vieillesse, correspondant aux quatre saisons. Ce qui sous-tend l'analogie entre l'homme et l'univers, ce sont les quatre qualités élémentaires, chaud, froid, sec, humide, chacun des éléments de l'homme ou de l'univers, se définissant par la prédominance de deux d'entre elles. Il y a donc quatre séries distribuées dans autant de cadrans, par exemple, dans le cadran sud-est, la série des éléments froid et sec, bile noire, âge mûr, terre, automne. Ce schéma circulaire qu'on retrouve dans des manuscrits latins plus anciens pourrait être complété par un cercle concentrique supplémentaire pour l'homme en inscrivant dans chacun des cadrans le tempérament correspondant, sanguin, bilieux, mélancolique, phlegmatique. Point n'est besoin d'insister sur l'extraordinaire diffusion de cette figuration, non seulement dans l'Occident médiéval, mais bien au-delà jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où l'avatar dessine encore les quatre tempéraments. Jusqu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette fresque, pourtant admirable. Mais quand le regard descend de la voûte sur la paroi, c'est là que l'étonnement commence. À qui est attribuée cette représentation de l'homme dans l'univers ? À un philosophe ? Non. À un médecin, comme l'indique son nom situé au-dessus de sa tête. C'est Hippocrate, le fondateur de la médecine occidentale, ce qui nous reporte plus de 15 siècles en arrière. Le doigt levé, Hippocrate délivre son enseignement à son disciple Galien, qui l'écoute avec déférence. L'artiste a réuni les deux grands médecins que 5 siècles séparent. Quel rapport existe-t-il entre cette conception médiévale de l'homme et la médecine d'Hippocrate et de Galien ? L'interrogation nous invite à remonter aux racines de cette théorie dans la médecine d'Hippocrate, puis à suivre son évolution chez Galien, et enfin, dans la médecine de l'époque tardive, avec la grande question du passage du grec au latin, de l'Orient à l'Occident. À l'origine de la fascination pour Hippocrate, il y a l'existence d'une littérature médicale d'une richesse étonnante, premier massif d'une 60aine de traités regroupés sous son nom. Son succès est fondé en raison. La médecine hippocratique ne se réduit pas à un ensemble de recettes, mais jointe à l'observation des malades, une réflexion d'ensemble à partir de concepts fondamentaux dont les Grecs furent les inventeurs, tels l'art et la nature. La médecine des Hippocrates se définit comme une techné à la fois art et science, s'opposant au hasard. La particularité de cette techné est qu'elle s'exerce sur l'homme, suppose la connaissance de l'homme. Or, connaître l'homme, c'est connaître sa physis, sa nature, concept opératoire capital, inconnu des autres médecines du bassin méditerranéen. La polyvalence moderne du mot « nature » ne doit pas nous égarer. La physis ne désigne pas d'abord en Grèce l'univers ambiant, ce que nous appelons, nous, la nature. Les Grecs contemporains d'Hippocrate avaient un mot tout différent, issu de la notion d'ordre, le cosmos. Le mot physis, nom d'action appliqué primitivement à la croissance des végétaux ou au résultat de cette croissance, comme l'atteste son premier emploi chez Homère à propos d'une plante, désigne à l'origine la nature d'un végétal et par extension celle d'un animal, enfin celle d'un objet inanimé. Mais la nature est au départ toujours nature de quelque chose. Et pour les médecins, ce qui prime, c'est la nature de l'homme. C'est précisément le traité hippocratique intitulé « La nature de l'homme » qui est le fondateur de la théorie des 4 humeurs. La nature de l'homme n'est pas simple, mais elle est constituée de 4 éléments innés, sang, phlegme, bile jaune et bile noire, qui sont en équilibre lorsque l'homme est en bonne santé et en déséquilibre lorsqu'il est malade. Voilà la base de la théorie que toute la pensée occidentale depuis Galien a considérée comme la pierre angulaire de l'enseignement d'Hippocrate. Pourtant, au 5e siècle avant notre ère, il faut le dire avec force, ce n'était qu'une théorie parmi d'autres. La conception régnante était celle de 2 humeurs pathogènes, bile et phlegme, le sang étant l'humeur de la santé. Il s'agissait en réalité d'une théorie isolée, car elle n'était pas attestée en dehors du traité de la nature de l'homme, dont on sait par ailleurs qu'il est l'œuvre non pas d'Hippocrate, mais de son disciple Polybe. Rien dans le contexte médical de l'époque ne promettait donc notre théorie à un aussi brillant avenir. On peut même soupçonner qu'elle est née moins de l'observation, dont se réclamait pourtant l'auteur, que du désir d'établir un schéma quaternaire. Pour cela, 2 variétés de bile, jaune et noire, ont été transformées en 2 humeurs indépendantes, acte de naissance de la bile noire, qui devait jouer un grand rôle dans le développement de la mélancolie, dont la récente exposition de Jean Clerc au Grand Palais a montré la postérité avec tant de succès que la presse américaine y a vu le signe de l'humeur mélancolique des Français. Toutefois, malgré son isolement à sa naissance, cette théorie avait en elle-même des atouts, et d'abord, la cohérence de ce système quaternaire qui mettait d'emblée l'homme en rapport avec son milieu. Les 4 humeurs varient suivant le cycle des 4 saisons, selon une loi fondée sur la notion même de nature. Chaque humeur est au plus haut dans le corps, suivant la saison qui est conforme à sa nature. Or, santé et maladie étant définies par l'équilibre et le déséquilibre des humeurs, il suit que le déséquilibre naturel lié aux saisons prédispose aux maladies qui sont donc saisonnières. Si l'on ajoute la correspondance entre les humeurs et les âges énoncée à propos de la bile noire, qui prédomine non seulement dans la saison de l'automne, mais aussi dans la période de la vie comprise entre 25 et 42 ans, on tient là le socle initial de la théorie établissant un rapport entre les humeurs, les saisons et les âges. Reste à en souligner les limites pour mesurer avec précision les développements ultérieurs. Il n'y a pas encore ce qui correspond au cercle extérieur du schéma d'Anani, les éléments de l'univers. Et cela pour une raison de méthode. Le médecin rejette au nom de l'observation toute conception qui excéderait le strict domaine de la médecine. Aussi ne veut-il pas entendre parler d'un homme qui serait air, feu, eau, terre. Enfin, il n'y a pas la moindre amorce des quatre tempéraments. L'auteur de la nature de l'homme, inventeur de la bile noire, n'est pas l'inventeur du tempérament mélancolique. Or, que devient cette théorie chez Galien, à qui l'on doit le second grand monument de la médecine grecque, plus vaste encore que le premier, bien qu'il soit érigé par un seul homme au IIe siècle de notre ère. Grâce à Galien, et en dépit d'évolutions politiques, scientifiques et philosophiques considérables, la figure du fondateur demeure intacte, portée par le respect de celui qui l'idéalise pour mieux se faire son continuateur. Première intervention décisive de Galien. Il attribue à Hippocrate en personne le traité de la nature de l'homme qui était l'œuvre de son disciple, et il fait de cet Hippocrate-là le pionnier de la recherche sur la nature. Ce contresens interprétatif créateur se fonde sur la conviction que Platon a lu ce traité et nul autre quand il fait référence dans son Phèdre à la méthode d'Hippocrate pour connaître la nature du corps. Dès lors, aux yeux de Galien, Hippocrate devient par sa méthode consistant à décomposer tout être en ses éléments premiers, le maître de Platon et l'initiateur de toute la recherche philosophique sur la nature, poursuivie après Platon par Aristote et l'école stoïcienne. Cette dimension philosophique attribuée par Galien à Hippocrate est déterminante pour comprendre que le père de la médecine ait pu être choisi à l'époque médiévale et notamment dans la fresque comme l'auteur non seulement d'une anthropologie, mais aussi d'une cosmologie. Voilà donc la première intervention décisive. Parallèlement, Galien a ajouté à la théorie deux orientations nouvelles. La première découle de la nouvelle image d'Hippocrate philosophe. Avec Galien apparaît ce qui est le cercle extérieur de la représentation d'Anani, la correspondance entre les humeurs et les éléments de l'univers. Toutefois, elle n'est pas encore définitive. Le sang ne correspond pas à un élément particulier, l'air, comme dans le schéma de la fresque, mais il est le mélange des quatre éléments. La seconde orientation est l'apparition de la théorie des tempéraments. Mais là encore, il n'y a rien de totalement systématique, car Galien ne croit pas que le phlegme puisse avoir une incidence sur l'intelligence et le caractère. Il faut donc se défaire de l'illusion que la théorie des humeurs et des tempéraments est parvenue à son expression définitive chez Galien. Ce n'est que quelques siècles plus tard que la théorie trouvera sa pleine expression dans une médecine grecque tardive et byzantine, où la division quaternaire aura une extension sans précédent. Et là encore, on retrouve l'autorité d'Hippocrate, mais d'un Hippocrate différent de l'Hippocrate de Galien. Sous le nom d'Hippocrate apparaît alors une littérature médicale encore assez mal explorée, présentant l'ultime aboutissement de la théorie. La forme la plus élaborée qui soit connue jusqu'ici se situe dans la tradition latine, une lettre attribuée à Vindicien, médecin de la province d'Afrique du IVe siècle de notre ère, estimé de saint Augustin. Cette lettre eut une influence historique décisive. C'est elle qui fut la principale source de la théorie à l'époque médiévale. Or, l'auteur de la lettre prétendait avoir traduit en latin ce qu'il avait trouvé de plus secret dans les livres d'Hippocrate. Pourtant, on serait bien en peine de trouver dans l'Hippocrate de la Renaissance le modèle grec d'un exposé aussi systématique. L'affirmation d'une traduction latine à partir d'un Hippocrate grec est-elle donc pure fantaisie? Pour répondre à la question posée, je voudrais introduire un témoignage nouveau, un petit traité de médecine grecque sur le pouls et le tempérament humain, attribué à Hippocrate, dont le contenu était resté ignoré. En lisant récemment ce traité dans deux manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'il correspondait exactement à l'exposé de la théorie d'Anvin d'Icien. Cette redécouverte permet donc de répondre à la question posée. La lettre latine de Vindicien est bien traduite du grec, et cela sans le relais d'une traduction arabe. Inversement, le rapprochement avec la lettre latine donne au traité grec retrouvé une valeur historique exceptionnelle. Il apparaît comme la véritable source de la théorie des quatre tempéraments diffusée dans le Moyen-Âge occidental par l'intermédiaire de Vindicien. Ainsi, contrairement à ce que l'on croyait jusqu'à présent, ce n'est pas d'abord sous une forme latine, mais grecque, que cette doctrine fut parachevée. Ce nouveau traité présente ce qui était considéré à l'époque tardive comme l'enseignement authentique d'Hippocrate. Or, quel est cet enseignement? C'est la théorie des quatre humeurs, mais elle atteint un degré de systématisation inconnu jusqu'alors. Certes, le fondement demeure, les quatre humeurs innées définies chacune par deux qualités élémentaires, les variations que subissent ces éléments permanents sous l'influence des saisons et des âges, mais on assiste à une pénétration grandissante du chiffre 4. Quatre sont les lieux du corps où chaque humeur réside. La bile noire est liée à la rate, ainsi pourra naître le spleen. Quatre sont les issues par où elle s'exhale. De quatre sortes sont aussi les battements du pouls correspondant à chacune des quatre humeurs. Sans prétendre à l'exhaustivité, j'irai droit à ce qui a eu le plus d'incidence sur l'histoire de la pensée occidentale. C'est la pénétration du chiffre 4 dans les tempéraments. Il est désormais admis comme une sorte de dogme qu'il existe quatre types de tempéraments physiques et moraux définis par la prédominance innée de chacune des humeurs. Voici en quels termes s'exprime le traité grec nouvellement découvert. Les humeurs ont une action sur le moral et l'intelligence. Le sang rend l'homme beau de corps, franc, gai, gracieux, plaisantant et souriant. La bile jaune rend l'homme amer, irascible. La bile noire rend l'homme insidieux, envieux, fort soucieux et gros dormeur. Le flegme rend l'homme beau de corps, éveillé, modeste et blanchissant rapidement. De l'importance accordée aux quatre tempéraments résulte une conséquence nouvelle sur la nosologie. Les maladies varient aussi selon les tempéraments. Cette relation n'est pas totalement neuve, puisque dès les problèmes d'Aristote, le tempérament mélancolique avait été mis en rapport avec les maladies causées par la bile noire. Toutefois, le fameux problème sur le génie mélancolique n'était pas inséré dans une théorie des quatre humeurs et n'a pas eu d'incidence sur la médecine grecque tardive. La nouvelle nosologie est bien exposée, en revanche, dans un second traité grec attribué à Hippocrate que j'ai retrouvé, intitulé « Sur la formation de l'homme ». Il ne se contente pas, en effet, de dresser le portrait des quatre tempéraments, mais il expose les maladies qui sont particulières à chacun d'entre eux. Ce second traité présente une autre originalité. Il pose une question nouvelle par rapport à tout ce que l'on connaissait. Pourquoi et comment naît-on avec un tempérament sanguin ou bilieux ou mélancolique ou phlegmatique? À question nouvelle, nouvelle réponse. Au cycle annuel des humeurs s'ajoute un cycle quotidien déjà attesté dans le modèle grec de Vindicien. Chaque humeur prédomine à son tour pendant le jour et la nuit, c'est donc de l'heure de la conception que dépendra le tempérament de l'enfant. L'on voit poindre dans l'histoire de la médecine une amorce de chronobiologie. Toutes ces innovations mises sur le compte d'Hippocrate posent une question sur l'image du père de la médecine dans cette troisième étape. Avait-on encore conscience que l'origine de la théorie remontait au traité de la nature de l'homme? Rien n'est moins sûr, car à aucun moment n'est faite la moindre référence au traité fondateur. La théorie fonctionne désormais de façon autonome, coupée de ses racines, coupée non seulement du vrai Hippocrate, mais aussi de Galien, dont les œuvres ne sont pas non plus citées. Et pourtant, le paradoxe est que ces traités présentant le stade le plus élaboré de la théorie sont assez souvent attribués à Hippocrate, maître de Galien. Le second traité redécouvert commence par cette phrase « Parole d'Hippocrate à Galien, son propre disciple ». C'est ce nouvel Hippocrate qui est la source de l'imaginaire médiéval et bien entendu de la scène médicale d'Ananie, pourrait-on trouver formule plus heureuse pour la commenter ? C'est un lien supplémentaire qui s'établit entre la tradition grecque et l'iconographie latine. Mais en passant du grec au latin, la théorie s'est enrichie d'une ultime correspondance. Le nom de l'homme, en latin homo, à la différence du grec anthropos, se réduit à 4 lettres qui rentrent dans le système, et l'artiste de la fresque a exploité habilement la correspondance en répartissant chacune des 4 lettres de homo dans chacun des 4 cadrans, indiquant ainsi le début de l'ordre de lecture. Il faut commencer par le printemps et l'enfance, où dominent le sang et l'air, pour passer à l'été et à la jeunesse, où dominent la bile jaune et le feu, puis à l'automne et à l'âge mûr, où dominent la bile noire et la terre, et enfin à l'hiver et à la vieillesse, où dominent le phlegme et l'eau. L'humanisme latin était plus adapté que l'anthropologie grecque à l'insertion de la nature de l'homme dans une théorie quaternaire par une sorte d'harmonie qui devait sembler préétablie entre le nom et la réalité. Né dans la médecine grecque de l'époque classique, progressivement enrichie à l'époque romaine puis à l'époque byzantine, transmise directement du grec en latin dans une traduction dont le maillon est retrouvé, cette représentation de l'homme continuera longtemps, malgré les progrès de la science, à hanter les esprits, même des musiciens. Dans la première moitié du XXe siècle, la symphonie opus 16 du Danois Carl Nielsen, puis les variations de Paul Hindemith, avec leurs 4 mouvements correspondant aux 4 tempéraments, en sont une brillante illustration.
Je remercie M. Jacques Joannat, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours, et je donne la parole à M. Emmanuel Leroy-Ladurie, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son discours « L'historien du climat face aux famines, aux disettes et aux révolutions ».
La mention des famines, en ce titre, ne fait pas problème. Sous l'Ancien Régime, elle pouvait être liée aux difficultés des grandes guerres. Pour l'essentiel, elles étaient engendrées cependant par des conditions météorologiques défavorables au développement et aux récoltes des grains, depuis les semailles jusqu'à la moisson. Pluies excessives, grands hivers, inversement, échaudage, sécheresse. L'un et l'autre étant nés notamment des canicules. Les millésimes 1976, 2003, etc. sont dans toutes les mémoires pour nous le rappeler. Quant aux révolutions, selon le titre de notre exposé, elles sont évidemment, dans leur causalité essentielle et pratiquement totale, politiques ou strictement sociopolitiques. Mais elles peuvent pourtant, et c'est là mon sujet, traverser des périodes de cherté excessive des subsistances, cherté du pain quotidien. Celles-ci accroissent le mécontentement populaire et elles jettent de l'huile sur le feu révolutionnaire ou simplement contestataire. Ainsi, en 1788, mauvaise récolte, avec les prolongements que l'on sait sur l'année suivante, 1789. Et puis de 1827 à 32, la cherté du pain, encadrant ainsi les 3 glorieuses de 1830, elles-mêmes indépendantes, bien sûr, de ce contexte. Enfin, en 1846, chaleur sécheresse anticéréalière, parmi les innombrables antécédents essentiellement politiques, eux, de la Révolution de 1848. Tenons-nous-en, s'agissant de l'arrière-plan météorologique, aux 3 grands acteurs qui déterminent essentiellement l'adversité météo-anti-récolte. Il y a d'abord les dépressions venues de l'Atlantique, porteuses éventuellement de précipitations excessives anti-boisson, 1315, 1692, 1816. En second lieu, les très grands hivers, nés des incursions d'air arctique, donc de l'anticyclone sibérien ou plutôt scandinave, 1709, 1956. Et bien d'autres millésimes glacés. Enfin, les canicules estivales, c'est le 3e acteur, dérivant, comme chacun sait, d'un impérialisme considérable de l'anticyclone des Açores sur nos territoires ouest européens et centre européens, avec effet négatif sur les rendements des céréales. Commençons par les premières causalités ci-dessus mentionnées, les perturbations, surtout printanières estivales, venues en trop grand nombre de l'ouest, de l'espace atlantique, les ciels mouillés, les soleils brouillés, le tout pourrissant les moissons sous l'excès des pluies, et produisant à l'âge médiéval ou moderne de vraies famines ou de simples disettes, par déficit des récoltes de blé, celui-ci du coup détrempé, germé, etc. On mentionnera d'abord à ce propos la célèbre famine de 1315 en Europe de l'Ouest, où des historiens médiévistes, il y en a ici, ont souvent vu la fin du beau Moyen-Âge gothique. Année trop humide, pluie incessante, mauvaise boisson, grosse mortalité. On se bornera ici à citer brièvement Baudelaire, paradoxalement typique à ce propos. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide, etc. Et Baudelaire d'évoquer les pluies incessantes, la mortalité, les corbillards, etc. Les grands épisodes d'été superpluviatiles ne manquent pas au cours de la longue période qui va depuis l'an 1315 que nous venons d'envisager jusqu'à la fin du petit âge glaciaire, disons vers 1860. Surtout en France, la grande famine de 1693, extraordinaire catastrophe nationale, préparée par des abats d'eau incessants et par une pluviométrie trop considérable de l'été et de l'automne 92. Bilan de ces années diluviennes, famineuses, épidémiques, en 1693, 1 300 000 morts supplémentaires, sur une population hexagonale de 20 millions de personnes ces années-là. Ce qui ferait aujourd'hui, la démographie ayant triplé, 3 900 000 décès supplémentaires, près de 4 millions de personnes. On citera encore le très dur épisode de 1740, disant en simplifiant 4 saisons froides, dont 3 hyperpluvieuses, avec non pas une famine, mais une grosse disette en conséquence. D'où viendra l'expression « je m'en fous » comme de l'an 40, façon justement de ne pas s'en foutre. Et puis la voûte du firmament plombée, ouvrant les cataractes des cieux, en Europe comme ailleurs, lors de l'année sans été 1816, faisant suite à l'énorme explosion du volcan indonésien de Tambora en 1815, ayant empoussiéré l'atmosphère de la planète. Par ailleurs, l'excès des pluies pendant plusieurs années, de 1648 à 1650 et de 1827 à 1831, a compliqué par de grosses chertés du pin, nées du déficit des récoltes, les alentours chronologiques de la première fronde, 1648-50, et ceux de la Révolution de 1830, ce qui nous ramène à notre sujet disetteux révolutionnaire. Le temps me manque pour traiter des grands hivers. Il va de soi que l'hiver de 1709, reste le plus considérable qu'on ait connu en Europe depuis 500 ans. Il a déclenché la famine par destruction des blés en herbe en raison du gel. Le manque à gagner de la production des grains provoquant de la sorte par ricochet d'hiver 600 000 morts additionnelles dans l'Hexagone, au lieu de 1 300 000 en 1693. 600 000 morts supplémentaires, c'est quand même un chiffre considérable du fait de cet hiver 1709. Morts un peu de froid, un peu plus souvent de faim, mais surtout à cause des habituelles épidémies collatérales, comme on dit dans le jargon actuel, typhus, dysenterie, fièvre, que provoque la sous-alimentation excessive en provenance de cette famine et du manque des subsistances, les semis ayant gelé en terre en 1709. Les grands hivers et les révolutions. Les exemples qu'on peut citer sont certes moins topiques que dans les cas précédents, quand j'évoquais la fronde et les années qui entourent la révolution de 1830. On citera quand même le grand hiver de 1829-1830, portant préjudice au semis des céréales et contribuant ainsi à la cherté des subsistances lors des prodromes de la Révolution, essentiellement politique, elle, des Trois Glorieuses, lors de l'été qui va suivre, en juillet 1830. Après les grandes incursions d'air arctique, assez traumatisantes dans leur genre pour le ravitaillement populaire, telles qu'en 1709, après les coups de Trafalgar, des perturbations atlantiques accourues en nombre excessif et responsables de désastres agro-météo et démographiques, tels qu'en 1693, il me reste à identifier le troisième larron, ou le Tertius Gaudens, l'anticyclone des Açores, lui-même responsable rarement mais rudement de crises frumentaires et ou mortalitaires, telles qu'en 1420, 1719, 1788, 1846 et bien sûr, dans un tout autre contexte, celui du XXe siècle, voire du XXIe, les chauds et très chauds étés, 1947 et surtout 1976, 2003, 2006, peut-être liés à l'effet de serre. Les manifestations parfois dangereuses de cet anticyclone des Açores nous sont devenues familières depuis quelques années. Nous savons qu'elles peuvent augmenter la mortalité. On connaît les décès de 15 000 personnes âgées en 2003. Les conséquences de telles canicules pouvaient être beaucoup plus graves lors de l'ancien régime météo-économique, surtout avant 1860. Le petit âge glaciaire était encore dans toute sa force jusqu'à cette date de 1860 précisément. Mais la variabilité inhérente à toute météorologie produisait quand même de très beaux étés, voire caniculaires, notamment au XVIIIe siècle, une période où s'effectua un assez remarquable réchauffement estival entre les trois fraîches décennies 1690-1700 et 1812-1820. Distinguons deux types de traumatismes caniculaires. Le premier type, c'est sans qu'il y ait mauvaise boisson, absolument pas, c'est disons l'effet santé publique, non point encore agression mortelle, antigériatrique, comme ce fut le cas en 2003. Mais mortalité par maladie infectieuse à l'encontre surtout des enfants, des bébés, du fait de la pollution microbienne dans les nappes phréatiques et surtout dans les rivières. Les unes et les autres devenues trop basses, séchées, verdies, infectées de microbes et de bacilles divers. Les dégâts sur le système digestif des enfants et aussi des adultes. La toxicose des bébés notamment pouvait être incroyablement élevée, notamment pendant certains chauds étés du XVIIe siècle dont je vais parler à l'instant. Ainsi, en 1719, dans l'Hexagone, à peu près formé dès cette époque, les 450 000 morts supplémentaires dues à la dysenterie caniculaire, plus d'autres infections de cet été 1719, chaude saison qui concluait elle-même le biennat estival brûlant de 1718-1719. Ce qui ferait aujourd'hui ces 450 000 morts sur 21 millions de Français de 1719, cela ferait 1 200 000 morts dans la France actuelle. Or, les gens de cette année-là, 1719, s'en apitoyèrent assez peu. Seuls les parents et aussi les curés, qui renvoyaient au paradis toutes ces petites âmes innocentes, les uns et les autres, parents et curés, écrasaient de temps à l'autre une larme furtive. Les médias existants, médias papier, il y en avait, n'en parlèrent guère. Et puis, après la grosse mortalité, mais sans disette, telle que nous venons de la signaler pour 1719, on peut citer aussi la disette proprement dite, avec ou sans mortalité, provoquée par l'échaudage sécheresse, lié aussi à l'anticyclone des Açores, ciel bleu et brûlant, sur le bassin de Paris, le bassin de Londres. Citons d'abord la famine francilienne de 1420, effectivement provoquée par un été brûlant de la même année, au temps d'Isabeau de Bavière, en une époque où, d'une façon générale, la France n'allait pas tellement bien. Citons, c'était la mélancolie dont on parlait maintenant. Citons aussi l'été très chaud de 1556 avec des incendies de forêt jusqu'en Normandie. Mais deux mots surtout sur ces épisodes d'échaudage sécheresse lors de dates cruciales, 1788-1846. 1788, c'est un modèle. Il y eut fin 1787 et 88 douche, puis sauna, ou si l'on préfère, douche, puis solarium, puis douche. Douche fraîche d'abord, lors de l'automne 87. Grosse pluie, qui font quelque tort au semail automnal en effet. Puis au cours d'une année 1788, assez uniformément chaude ou même très chaude par rapport aux millésimes environnants. Un solarium sauna de printemps ou de début d'été 88. Grille les moissons sur pied, ou du moins une certaine portion des récoltes de céréales. Enfin, les intempéries de l'été 88, cet été trop chaud, mais aussi logiquement avec grêle, orage, averse, sortent de temps de mousson, humide et chaud, finit d'abattre les épis, l'effet versé. La récolte de 1788 est diminuée d'un tiers, ce qui n'est pas énorme. Les prix du blé montent en flèche, les émeutes de subsistance sont dans la rue jusqu'au 13 juillet 89. Drôle de façon de célébrer le 14 juillet. Et la prise de la Bastille avec une journée d'avance. Et tout ceci, c'est l'une des composantes de 1788-89. Il y en a bien d'autres, certes, non pas climatiques, mais budgétaires, politiques, prépondérantes. La mauvaise météo restant quand même l'un des éléments de ce complexe nexus causal, lequel précipitera à court terme la révolution de 89. Notons cependant qu'il n'y a pas de mortalité supplémentaire en 88-89. L'effet contestataire est immense, l'effet mortalitaire est presque nul. Je rédigeais le présent exposé à Paris le 26 juillet 2006 par 36 degrés à l'ombre, température extérieure, après des jours et des jours de chaleurs analogues. La presse, qui consacrait de gros titres à cet épisode, affirmait qu'on n'a jamais connu mois de juillet plus chaud sur nos territoires. Juillet 2006, c'est, nous dira-t-on, 2003, redivivus. Mais c'est aussi en plus intense une répétition du jadis, autrement dit de l'an 1846. On était cette année encore au temps du petit âge glaciaire, avec de gris hivers ultra-neigeux qui nourrissaient ou gonflaient en abondance les glaciers des Alpes, alors beaucoup plus gros qu'aujourd'hui. Mais la variabilité météo restait considérable, grosse de canicules, fussent-elles un peu moins brûlantes qu'en 2003 ou 2006. Et c'est ainsi, répétons-le, que l'ensoleillement de 1846 fut considérable, flanqué par une sécheresse anticéréalière. En 1846, tout l'hémisphère nord était plus ou moins affecté par cet épisode chaud et sec. Sous Louis-Philippe Terminal et lors de sa chute, les conséquences allaient se révéler considérables. Baisse d'un tiers du rendement des moissons, conjuguée par ailleurs avec la raréfaction des pommes de terre à cause des spores du fungus infestant venu jusqu'en Irlande et sur le continent. La mauvaise moisson de 1846 crée une vive sûreté pour le panifiable, ainsi que des mortalités humaines non pas apocalyptiques mais réelles, déclenchées par les fameuses épidémies collatérales. Concentration par ailleurs du pouvoir d'achat en 1846-47 sur le pain, lui-même devenu trop cher, donc de ce fait mévente du textile, chômage ouvrier, puis mécontentement social, le tout débouchant au terme de 20 autres causalités sur le mouvement populaire des barricades inauguré en février 1848 avec les connotations révolutionnaires que l'on sait. Dans le court terme, les conséquences des brûlures juilletistes de 2006 succédant à une phase multimensuelle et même multiannuelle de sécheresse seront beaucoup moins spectaculaires qu'en 1846. Car l'agriculture n'est plus au centre de l'économie. Le froment n'a plus de nos jours la position stratégique décisive qui était le sien lors des monarchies d'autrefois. Quant à la mortalité des personnes âgées qui fut non négligeable en 2003, on croit savoir qu'elle était sous contrôle en 2006. Malgré tout, le court terme Louis-Philippard de 1846-47 était tout sauf réjouissant. Mais après quelques rudes épreuves, il allait quand même accoucher 6 saisons plus tard du printemps des peuples de 1848-50. Ne boudons pas notre plaisir. Quant au long terme post-1850, il se situait déjà sous les auspices du progrès humain indéfini qu'allaient célébrer Victor Hugo, Friedrich Engels et tant d'autres. De nos jours, c'est peut-être différent. Les canicules se rapprochent les unes des autres. Celle de 1976 a fait attendre pendant plus d'un quart de siècle son homologue de 2003. Mais ce millésime 2003 était encore tout chaud dans nos mémoires, et pour cause. Et déjà deux années après, 2006, opérait la récidive, du moins en juillet. Le 21e siècle, compte tenu de la prégnance d'un CO2 plus diffusé que jamais, va-t-il se signaler de la sorte, par un revenez-y caniculaire assez répétitif? Bien malin qui pourrait le prédire avec certitude. Et pourtant, le GIEC, groupe intergouvernemental des études sur le climat, impavide, nous annonce pour la fin du 21e siècle quelques degrés centigrades supplémentaires à nos latitudes et ailleurs. Si le diagnostic est exact, on ne voit pas trop ce qui pourrait freiner le processus que découvrent ainsi les scientifiques. Ils deviennent de la sorte, en leurs aruspices, les émules des augures de l'Antiquité. Alors, faudrait-il des mesures draconiennes concernant la consommation des carburants? Disons qu'on les attend toujours. Elles viendront peut-être. En attendant, on peut toujours cultiver, sans trop y croire, la vertu d'espérance. Le GIEC, après tout, est peut-être dans l'erreur. Mais non. Bien des données semblent confirmer les prévisions de cet auguste aréopage. Le 21e siècle sera ultra tiède, un peu trop chaud même, au gré de beaucoup. Si c'est le cas, l'effet de serre apparaît tout d'un coup comme la progéniture imprévue et comme l'enfant bâtard des grandes conquêtes techniques de l'époque moderne et contemporaine, celles des 18e, 19e et 1er 20e siècles. Disons, en dépit des objections certes tout à fait justifiées, pro-techniciennes, que présente avec talent notre confrère Claude Allègre, disons que cet effet de serre se présente à nos yeux comme l'une des négations les plus radicales de l'idée de progrès, telle que la formulèrent sans trop de nuances, depuis Condorcet jusqu'à Jules Verne, les hardis penseurs du siècle des Lumières et des générations ultérieures.
donne la parole à Monsieur Hervé Le Treut, délégué de l'Académie des sciences, pour la lecture de son discours « Changement climatique, perspectives et implications pour le XXIe siècle ».
Si la perspective d'un changement climatique global résultant de l'augmentation des gaz à effet de serre constitue désormais un risque dont la réalité est très largement reconnue, c'est parce que la communauté scientifique s'est organisée depuis plusieurs décennies pour en développer un diagnostic de plus en plus étayé, puis le repercuter très largement au niveau du grand public ou des décideurs. Cette phase d'alerte à poser pose encore des problèmes difficiles. Comment traduire de manière suffisamment forte et audible un sentiment d'urgence face à l'évolution de notre environnement global, sentiment qui est partagé par la plupart des scientifiques, tout en gardant un discours rigoureux qui fasse la part des certitudes, mais aussi des multiples incertitudes qui affectent toute tentative de prévision quantitative. Comment traduire le consensus général de la communauté scientifique en laissant néanmoins leur place aux différences de sensibilité inévitables dès qu'il s'agit de déterminer l'importance pour nos sociétés des perturbations à venir? Pour apporter une réponse partielle à ces questions, nous allons rappeler de la manière la plus simple et la plus factuelle possible les points clés du dossier scientifique et les conditions dans lesquelles il a été élaboré. L'atmosphère, les océans, les grands glaciers ou les banquises constituent des milieux complexes qui interagissent constamment au travers de processus mécaniques, physiques, chimiques ou biologiques et déterminent ainsi ce que l'on appelle le système climatique. Au cours des milliards d'années de l'histoire de la planète, les conditions climatiques ont fluctué largement, sous l'effet de causes multiples, augmentation de la puissance du soleil, dérive des continents, consommation partielle du dioxyde de carbone par le développement de la vie. Plus près de nous, les 2 millions d'années de l'ère quaternaire ont vu les hominidés se développer dans un climat oscillant constamment entre des conditions glaciaires et interglaciaires, fluctuations très largement dictées par des causes d'origine astronomique. Par rapport à ces évolutions mouvementées, nos civilisations se sont au contraire développées dans une période bien particulière par sa stabilité. Nous vivons depuis 10 000 ans dans des conditions interglaciaires, une situation d'une durée inhabituelle, dont la théorie astronomique rend compte, et qui est appelée à se poursuivre encore quelques milliers d'années. Depuis 5 000 ans, le climat de la Terre est globalement très stable, et les fluctuations qui nous ont malgré tout affectés pendant cette période, telles que le petit âge de glace ou l'optimum climatique du Moyen Âge, quel que soit l'impact social ou économique considérable qu'elles ont pu avoir, ne se sont traduites que par des variations globales de la température de quelques dixièmes de degrés, bien inférieures aux quelques degrés de réchauffement que laisse présager l'augmentation des gaz à effet de serre ou aux quelques 5 à 6 degrés de réchauffement qui accompagnent la sortie d'un âge glaciaire. Cet interglaciaire très long a permis à l'environnement de la planète d'atteindre un état d'équilibre global très fin, caractérisé par une très grande constance de la teneur atmosphérique en gaz à effet de serre. Le niveau de dioxyde de carbone, je dirais ensuite CO2, a par exemple constamment gardé une valeur proche de 280 par million, je dirais ensuite ppm. Depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire depuis le début de l'ère industrielle, les activités humaines sont venues rompre de manière brutale cet équilibre. Le niveau de CO2 atmosphérique atteint désormais 370 parties par million, ppm, une valeur jamais approchée tout au long du dernier million d'années, où les fluctuations du CO2 associées aux variations glaciaires-interglaciaires se sont toujours inscrites dans une fourchette beaucoup plus basse, allant de 180 à 300 ppm. La plus grande partie de ces variations a été acquise au cours des dernières décennies, une évolution dont la brutalité est sans équivalent à l'échelle du climat observé. Ce CO2 additionnel est injecté dans l'atmosphère par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz, un phénomène presque inexistant avant 1850, qui n'a atteint le taux de 2 milliards de tonnes de carbone émises chaque année qu'un peu après 1950, pour dépasser maintenant les 6 milliards de tonnes par an. Au-delà du CO2, d'autres gaz ont vu leur teneur atmosphérique augmenter rapidement. La teneur en méthane, tributaire de l'extension des rizières ou de l'élevage des ruminants, a plus que doublé. L'oxyde nitreux, les fréons ou leurs substituts, l'ozone troposphérique, ont également subi une évolution très rapide. L'action de l'homme sur le système climatique prend certes des formes multiples, qu'il s'agisse de l'émission de poussière ou d'aérosols, ou encore de modifications variées des paysages ou de la végétation naturelle. Parmi toutes ces perturbations, toutefois, l'augmentation des gaz à effet de serre constituent un phénomène très spécifique qui tient à leur très longue durée de vie atmosphérique. Plus d'un siècle, par exemple, pour le CO2, contre quelques semaines pour les poussières ou aérosols souvent émis de manière simultanée. Il s'agit donc d'un effet cumulatif, appelé à dominer très fortement toutes les autres perturbations anthropiques et largement irréversible. Ses conséquences s'étendront aux décennies et siècles à venir, et certaines composantes lentes du système climatique, telles que les océans ou les grands glaciers, en prolongeront les effets sur des durées plus longues encore. C'est aussi un effet global, puisque les gaz émis en un point quelconque de la planète se mélangent rapidement à la surface du globe et affectent l'humanité tout entière. Nous sommes donc face à un problème qui appelle une solidarité double, à l'échelle de la planète et vis-à-vis des générations futures. Le risque de changement climatique associé repose sur un mécanisme physique qui peut être décrit de manière simple. L'augmentation de la teneur atmosphérique en gaz à effet de serre empêche le sol de la Terre, chauffé par le Soleil, de perdre librement son énergie par rayonnement infrarouge direct vers l'espace. Ce rayonnement est absorbé par l'atmosphère et partiellement réémis vers le sol. Cet effet, appelé effet de serre par une analogie avec le réchauffement de surface que produit un vitrage, conduit inéluctablement à un réchauffement des basses couches de l'atmosphère. Il constitue en premier lieu un effet naturel et bénéfique. L'effet de serre dû à la vapeur d'eau, aux nuages, à certains gaz minoritaires, permet à la Terre d'être habitable, avec une température qui est en surface de 15 degrés Celsius environ, au lieu de moins 18 degrés si elle était dépourvue d'atmosphère. C'est aussi un effet fragile. Les principaux gaz atmosphériques, l'azote et l'oxygène, ne jouent presque aucun rôle. Seuls interviennent des gaz qui représentent bien moins d'un centième de la masse atmosphérique. Cette fragilité explique qu'un effet apparemment faible, mais systématique des activités humaines, poursuivi pendant plusieurs décennies, puisse avoir un impact important. Bien sûr, cette description simplifiée du rôle des gaz à effet de serre est aussi une description simpliste. Et la formulation du problème qui a été effectuée par notre communauté scientifique est beaucoup plus respectueuse de la complexité du monde réel. Elle s'est faite sur la base de plusieurs générations de modèles numériques, allant dans le sens d'une représentation toujours plus complète et géographiquement précise du climat de la Terre. Le développement de ces modèles a constitué une aventure scientifique de très grande ampleur, d'abord motivée par un questionnement d'ordre fondamental. Les équations de la mécanique, de la physique, nous permettent-elles de rendre compte des caractéristiques essentielles de notre planète, des grands régimes de vent, de précipitations, des courants océaniques, de la position des déserts, de l'extension de la banquise, après 30 ans de recherche impliquant plusieurs milliers de scientifiques au niveau international, la réponse est clairement positive. Il est en conséquence possible de créer des planètes numériques, des répliques informatiques, imparfaites bien sûr, de la planète réelle. L'éventail d'applications très large de ces modèles, prévisions météorologiques, prévisions marines, diagnostic des fluctuations interannuelles du climat, implique une confrontation continuelle aux données. Elles constituent une preuve de la pertinence des modèles et permet leur validation, validation qui est complétée par l'étude de climats très différents, glaciaires par exemple. Nous disposons ainsi d'un outil bien sûr imparfait, mais largement éprouvé, à partir duquel évaluer les conséquences possibles d'une augmentation des gaz à effet de serre. Une synthèse régulière de ce travail a été menée au niveau international par le GIEC, le groupe intergouvernemental pour l'évolution des climats, mise en place par le programme environnement des Nations Unies et l'Organisation météorologique mondiale, dans le respect très strict des normes habituelles de l'évaluation scientifique, par les pairs et dans les journaux et publications de la communauté scientifique. Le premier rapport du GIEC, en 1990, indiquait une évolution possible de la température de surface allant de 2 à 5 degrés Celsius environ pour un doublement du CO2 atmosphérique, principalement sur la base de modèles encore assez simples, sans représentation explicite de l'océan. Malgré l'incertitude quantitative affectant ces résultats, leur structure géographique était décrite de manière cohérente par les différents modèles. Augmentation des températures plus rapides dans les régions polaires et sur les continents, précipitation augmentée dans les régions pluvieuses, avec au contraire un risque de sécheresse accrue dans les régions semi-arides. Depuis cette date, deux autres rapports ont été publiés, en 1995 et 2001. Un quatrième, à venir prochainement, en février 2007, résumera un travail énorme d'analyse des simulations climatiques les plus récentes. Environ 200 articles étudiant les résultats d'une quinzaine de modèles sont déjà publiés ou soumis pour publication. Les modèles d'aujourd'hui sont souvent bien différents de ceux d'il y a 15 ans. Ils incluent tous une représentation active de l'océan, une physique atmosphérique plus cohérente, une représentation plus complète de l'hydrologie et de la végétation sur les sols continentaux. Par ailleurs, les simulations du climat futur dépendent bien sûr de l'estimation forcément incertaine de ce que pourront être les émissions de gaz à effet de serre en l'absence de mesures dédiées. Un spectre large d'hypothèses a été utilisé, allant d'une stabilisation des émissions à une multiplication par 3. Les résultats sont bien sûr enfin tributaires des imperfections qui subsistent dans les modèles et du fait que le système climatique est un système complexe qui n'est pas entièrement prévisible. Malgré tout cela, il est frappant de voir que les simulations les plus récentes confirment les scénarios déjà établis à la fin des années 80 et synthétisés dans le premier rapport du GIEC. Même avec les modélisations les plus complexes actuellement disponibles, utilisant des ordinateurs à la puissance colossale, tels que le Earth Simulator japonais, le système climatique simulé réagit à l'augmentation des gaz à effet de serre selon les ordres de grandeur que détermine une analyse plus simple, qui était déjà celle de la communauté scientifique il y a plus de 20 ans. Les processus simples sont donc bien les processus dominants. De plus, depuis quelques années, les indices se multiplient qui témoignent d'une évolution très caractérisée du système climatique réel, que l'on ne sait plus expliquer sans tenir compte d'un premier effet de l'augmentation des gaz à effet de serre, même si d'autres facteurs tels que les changements d'insolation ou le volcanisme ont pu jouer un rôle. Les caractéristiques globales de ces changements sont très cohérentes avec la prévision des modèles. Au réchauffement de 0,8 degrés environ depuis le début de l'ère industrielle, s'accélérant au cours des dernières décennies, s'ajoute un recul général des glaciers de montagne, de la banquise, des surfaces enneigées, un relèvement du niveau de la mer de 3 mm par an, en forte augmentation par rapport aux valeurs plus proches de 1 mm observées au début du XXe siècle, une évolution de l'hydrologie globale cohérente avec les anticipations des modèles, et des variations désormais significatives affectent des paramètres très variés, date de floraison, migration d'espèces. Il s'agit là de constatations qui sont techniquement complètement indépendantes des résultats des modèles et établies sur la base d'observations largement postérieures aux premières simulations réalisées à la fin des années 80. Sans constituer des preuves absolues, elles confortent donc de manière importante les scénarios établis par les modélisateurs. Il faut par contre se garder de faire de ces évolutions récentes une référence intuitive pour évaluer l'importance de l'évolution future du climat. Si le réchauffement que prévoyaient les modèles pour l'année 2000, quelques dixièmes de degrés par rapport à la période pré-industrielle, est globalement cohérent avec ce qui s'est produit, les scénarios futurs évoquent un réchauffement de 2 à 6 degrés en 2100, un réchauffement qui est donc supérieur d'un ordre de grandeur à ce que nous avons connu et dont la seule analogie récente en termes d'amplitude est constituée par la sortie de l'âge glaciaire. Un dérèglement aussi rapide du climat de la planète sera susceptible d'entraîner des processus irréversibles graves, modification des courants océaniques, fonte des glaciers polaires, modification forte des écosystèmes et de leur action en retour sur le climat. Il est impossible de prévoir dans le détail ces évolutions. Le danger le plus fort est sans doute lié à la vitesse considérable des transformations à venir, qui sera responsable d'une difficulté d'adaptation accrue des écosystèmes ou des sociétés. Le système climatique va aussi réagir de manière très différenciée à ces effets. Il existe des seuils de danger, encore mal définis, au-delà desquels certains risques, la fonte de certains glaciers par exemple, ou le dégazage du méthane contenu dans le pergélisol, grandissent de manière forte. Enfin, les émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu rendent certaines évolutions presque inéluctables. Une réduction immédiate des émissions permettrait de limiter en quelques décennies la tendance au réchauffement de la planète. Elle n'aurait d'impact significatif sur le relèvement du niveau de la mer que bien plus tard, probablement au siècle prochain. Ces caractéristiques vont faire du changement climatique l'un des facteurs de tension importants du monde de demain, dont les effets se croiseront de manière complexe avec une longue série de contraintes, démographie, santé, usage de l'eau, biodiversité. La complexité et la vitesse des évolutions en cours militent donc pour une action rapide à la fois de réduction des gaz à effet de serre et d'adaptation préventive au changement. Dans ce domaine, l'attente de la société vis-à-vis de la science et des scientifiques a progressivement changé. À la nécessité de l'alerte s'ajoute désormais une demande d'aide beaucoup plus précise au dimensionnement des politiques environnementales. Les incertitudes scientifiques prennent alors une importance bien plus déterminante, même s'il est possible d'imaginer qu'au fil des années à venir, alors que se poursuivra le changement climatique en cours, il devienne possible d'en anticiper plus précisément l'évolution, celle-ci restera toujours affectée par une part d'imprévisibilité. Comme dans bien des domaines, nous sommes face à un risque dont nous savons cerner les contours généraux sans être capables d'en prévoir de manière quantitative toutes les manifestations. Nous devons néanmoins déterminer une politique qui traduise, par exemple, la responsabilité des pays pollueurs vis-à-vis de ceux qui souffriront des impacts climatiques les plus forts, ou qui prennent en compte l'engagement probablement irréversible que nos actions déterminent vis-à-vis des générations futures. Ces choix, où le problème climatique doit être mis en regard des autres problèmes de la planète, ne peuvent être l'affaire des seuls scientifiques. Ils réclament un débat plus large, éthique, politique et citoyen.
Je remercie M. Hervé Le Treut de son discours et donne la parole à M. François-Bernard Michel, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour la lecture de son discours « La nature et l'art semblent se fuir ».
La nature et l'art semblent se fuir, remarquait Goethe, pour évoquer l'énigmatique relation de l'artiste avec la nature, mais c'était pour ajouter aussitôt « Avant qu'on y songe, ils se sont retrouvés ». Artiste et nature, le sujet justifierait une encyclopédie et l'envisager en 15 minutes relève d'une mission impossible. Je vais tenter la gavure en me limitant, si je puis dire, à deux thèmes, nature et création artistique, l'homme dans la nature. Dans la genèse d'une œuvre d'artiste, quelles sont les parts respectives de ses observations de la nature et celles des créations de son imagination, de son talent, de son travail. Commençons par une évidence, la nature non dénaturée par l'homme propose le spectacle naturel du beau. Ernst Haeckel, attaché aux relations entre science et art, écrivait au début du XXe siècle « La nature produit dans son giron une masse inépuisable de formes merveilleuses qui dépassent par leur beauté et leur variété tout ce que l'homme peut créer comme forme artistique. » Laissons à Haeckel la responsabilité de son affirmation, qui contesterait toute œuvre d'art, et considérons l'interposition d'un compositeur ou d'un plasticien entre nature et auditeur ou spectateur. La nature offre au sens de l'artiste l'univers varié du monde extérieur. Elle lui propose par conséquent l'émerveillement issu du beau, vu, entendu ou senti, suscitant en retour son envie, voire son besoin irrépressible, d'exprimer sous des formes artistiques diverses les sensations éprouvées. Le motif, rappelé René Huyghe, constitue le moteur de toute œuvre réalisée d'après nature. Ce que la nature propose à l'artiste est donc une force vitale, de nature vraiment biologique, puisqu'elle émane de la vitalité qui fait son essence et sollicite de la biologie sensorielle de l'artiste une réaction naturelle issue de ses sensations et émotions. Au compositeur, la nature propose une source infinie de thèmes et formes musicales. Ainsi, l'oreille exceptionnelle d'Olivier Messiaen a-t-elle enregistré 77 espèces d'oiseaux qui, le merle par exemple, sont de merveilleux et étonnants improvisateurs. Certaines œuvres de Messiaen ne sont pas pour autant des compilations de chants d'oiseaux. Lors de nos rencontres, j'ai eu la chance d'entendre ses commentaires sur les partitions de son François d'Assise qui m'ont confirmé que les chants d'oiseaux correspondent à des ultrasons. Le talent de Messiaen fut d'en imaginer et extraire des figures mélodiques et rythmiques intégrées à des combinaisons harmoniques et contrapuntiques. Le citadin Claude Debussy, sédentaire et pourtant fervent de la nature, a situé la scène initiale de Pelléas sous les frondaisons d'une vieille forêt dont la magie imprègne la rencontre de Golo et Mélisande. Il aimait également la mer. Il y a fait une croisière avec Marie-Blanche Vanier, mais lorsqu'en 1903 il compose La mer, il travaille dans le silence d'une maison de Bourgogne d'où il écrit un messager. Si la mer ne baigne pas les coteaux bourguignons, les souvenirs valent mieux, je cite, qu'une réalité dont le charme pèse trop lourd sur votre pensée. Effectivement, de son terroir bourguignon, Debussy nous fait naviguer aussi bien sur le toit tranquille méditerranéen de Paul Valéry que sur des océans de tempête. Parmi les innombrables évocations de la nature dans les œuvres musicales, il suffit de rappeler la symphonie pastorale de Beethoven, les steppes de l'Asie centrale de Borodine, les dialogues de chat dans L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. Toutes les sensations accumulées par Hector Berlioz durant ses promenades dans les Abruzzes, écrit Arnaud d'Otrive, se retrouvent dans les couleurs incisives de la carte postale sonore que constitue Harold en Italie. Les évocations de Turner, Goya et Jérôme Bosch, par des compositeurs de l'Académie des Beaux-Arts, se sont attachés à ces liaisons du sonore au visuel, réalisant les épalages métonymiques chers à Marcel Proust. Si la musique a toujours un référent naturel, si le compositeur transpose ses impressions sensorielles de la nature, n'est-il pas celui, cependant, qui doit le moins à cette nature et le plus à son inspiration ? Serge Nigg invoque ainsi ce qu'il dénomme l'idée subite, cet éclair soudain, donné et non travaillé, ce surgissement toujours gagnant, météorite lumineuse constellant le ciel de la musique, dont le meilleur exemple est la fameuse petite phrase « Deux mesures à peine, les seules, écrit Marcel Proust, que Swann a retenues de la sonate de Vinteuil, parce qu'elles sont liées à son amour pour Odette de Crécy. » Proust évoquait-il précisément un compositeur tel que Guillaume Lequeux, ou bien sa petite phrase est-elle issue de son imagination ? On ne le sait pas. Mais plus intéressant est son jugement sur les motifs musicaux. Swann, écrit-il, tenait les motifs musicaux pour de véritables idées de notre monde, des idées voilées de ténèbres, inconnues et impénétrables à l'intelligence. Et quand il se faisait jouer la petite phrase, Swann cherchait, je cite, à démêler comment, à la façon d'un parfum, elle le circonvenait et l'enveloppait. Proust, notons-le, range Swann parmi les idolâtres et célibataires de l'art qui s'extasient en retrouvant l'incarnation de la Zéphora de Botticelli dans le corps d'Odette au lieu de s'abandonner à l'émotion, tandis que l'artiste approfondit, je le cite, le petit sillon que la vue d'une aubépine ou d'une église a creusé en lui. Mais puisque nous évoquons la peinture, bien absente de la famille de Madame Proust, pouvons-nous qualifier certains peintres d'imitateurs de la nature ? Un employé d'octroi qui peint, en dehors des heures de service, comme on le dit des fonctionnaires, ne peut, semble-t-il, être qu'un peintre naïf. Or, il est tout sauf naïf, Rousseau, dit le douanier. Il a une carte de copiste au Louvre, il est ami de Bouguereau, Clément et Jérôme, il a découvert les décors exotiques à l'exposition universelle de 1889, il a vu dans l'illustration des dessins de bêtes féroces, il a observé au Jardin des Plantes les tons éclatants et les nuances délicates des jungles. Sculpteurs, peintres et graveurs, attachés à étudier la nature humaine, ont d'abord élu la reproduction fidèle de l'anatomie, préalable indispensable à la connaissance de l'humani corporis fabrica, la fabrique de l'homme. Après les travaux fondateurs de Vézal, Dürer ou Léonard de Vinci, ils se sont appropriés l'anatomie artistique, des nus et des écorchés, tandis que se multipliaient leçons et théâtres d'anatomie. Si le prosecteur d'anatomie que je fus déplore aujourd'hui la culture de cet homo anatomicus, c'est parce que les médecins l'ont adopté pour pratiquer une médecine anatomique, concevant l'homme comme un assemblage d'organes, le réduisant à un corps dont le médecin ignorait la parole et le destin de transcendance. Depuis le XVIIe siècle, l'Académie des Beaux-Arts estimait obligatoire, je cite, « l'imitation de la nature en toutes choses et se donner pour mission d'en maintenir la tradition ». On ne saurait l'en blâmer, elle prônait ainsi le dessin dont l'enseignement est si négligé aujourd'hui, mais cette imitation, elle la défendait aveuglément. On n'aura pas à faire cet après-midi ce que fit le 7 octobre 1825 le secrétaire perpétuel Quatremer de Quincy, qui dut appeler la troupe et ses baïonnettes pour faire évacuer la coupole où nous nous trouvons, afin de séparer partisans et adversaires de la mimésis. Lui qui affirmait sentencieusement « l'innovation est fille de l'ignorance » souscrivait sans doute au contresens durable infligé à la pensée d'Aristote, qui par mimésis ne désignait pas seulement dans sa poétique l'imitation de la nature, mais le dynamisme créateur de l'imaginaire, la diégésis. À l'ancien et un peu vain débat consacré à l'alternative imitation de la nature, créativité de l'artiste, la neurophysiologie du système nerveux a apporté une conclusion définitive. Pour ne prendre que les cas des arts plastiques, scanners et IRM nous ont révélé que les informations captées par une rétine et transmises au cerveau occipital sont diffusées par d'innombrables connexions, à plusieurs zones encéphaliques, particulièrement préfrontales, qui activent les effecteurs moteurs du geste de l'artiste et légitiment a posteriori la belle formule de Paul Valéry lorsqu'il évoquait la main de l'œil. Les yeux, oreilles et mains d'artistes puisent donc dans le disque dur de leur mémoire cérébrale les informations avec lesquelles leur imagination et leur talent font œuvre. Nature et culture, débat sans fin. Nous voyons davantage avec notre cerveau qu'avec nos yeux. L'artiste qui s'attache à tel élément de la nature obéit à une pulsion intérieure, mais dans une certaine mesure, l'œuvre préexiste en lui, car l'expression du motif réalise en quelque sorte, dit Claude Abeille, la métaphore d'une vision personnelle, celle de son monde intérieur confronté à l'extérieur, et dont la qualité est liée à sa capacité de distanciation. On fait très bien la différence, remarquait Pierre Bonnard en visitant le musée du Prado, entre les peintres qui savent se défendre contre le motif, le Titien par exemple, et Velázquez, sans défense, contre les motifs qui l'ont séduit. Avant les neurophysiologistes, l'intuition et la perspicacité singulière des écrivains et poètes avaient proposé des jugements pertinents sur le thème artiste et nature. Charles Baudelaire retenait ainsi des propos d'Eugène Delacroix que la nature n'est qu'un dictionnaire dont les milliers d'entrées ne composeront jamais un texte, pas plus que copier la nature ne fera un artiste. Ceux qui n'ont pas d'imagination, ajoutait-il, copient le dictionnaire, cultivant le vice de la banalité, vice de ceux qui considèrent généralement comme un triomphe de ne pas montrer leur personnalité. L'art, imitation de la nature, questionne Paul Valéry. Cette niaiserie serait vraie si imiter était mieux que copier le n'importe quoi qui paraît. Marcel Proust, après avoir rappelé que l'art permet de voir l'univers avec les yeux de notre et que l'artiste restitue grâce à lui l'essence des choses, inverse l'ordre des facteurs, affirmant « que la nature emprunte à l'art tous ses privilèges, évoquant dans un décor d'arbres en fleurs la puissance de l'imaginaire, son narrateur entrevoit dans ces arbres des gardiens des souvenirs de l'âge d'or, des garants de la promesse que la réalité n'est pas ce qu'on croit et que la splendeur de la poésie peut y resplendir. Paul Claudel, enfin, avec son sens de la formule, écrivait « J'ai respiré le paysage et maintenant, pour dessiner, je retiens mon souffle. » L'homme dans la nature. Pour scruter la place faite à l'homme dans la nature par les plasticiens, il faudrait évoquer les splendeurs paysagères des peintres chinois et japonais, et dans notre pays, celles de Corot et Poussin, dans lesquelles les figures humaines vont de l'ébauche à la précision du portrait. Nicolas Poussin va être largement considéré par Pierre Rosenberg. Aussi limiterai-je au texte écrit les évocations de Gustave Courbet, de Monet et des impressionnistes, de Vincent Van Gogh, Frédéric Basile et Paul Cézanne. Après eux, l'évolution de la peinture tend, est-ce prémonitoire, vers la raréfaction puis la disparition de l'homme dans la nature. Il faut dire que les artistes de la fin du XIXe et surtout du XXe siècle adoptent des visions de la nature qui les amènent à quitter le domaine de la représentation purement figurative. Une toile documentaire dont l'intérêt artistique est inversement proportionnel à son importance en psychologie humaine doit être mentionnée ici. Lorsque André Brouillet peint la leçon du professeur Jean-Martin Charcot à ses élèves de l'hôpital de la Salpêtrière, parmi lesquels le docteur Freud, il illustre la réalité chez ces femmes d'une autre anatomie, une anatomie psychique en quelque sorte, selon laquelle les mots corps, sein, cœur prennent des significations fort différentes pour celui qui les dit et celui qui les entend, celui qui les voit et celui qui les représente. Laissant libre cours à leurs interprétations, rêves et fantasmes, les plasticiens de la génération suivante s'aventureront sans limite dans la déformation du réel. Leurs approches nouvelles procèdent globalement du préfixe grec « méta », ce qui vient ensuite, ce qu'on peut voir derrière les apparences du réel, ce qu'on entend derrière des séquences de notes. Les surréalistes, on se souvient de Magritte avec sa toile « Ceci n'est pas une pipe », nous inviteront à nous défier des apparences. Paul Klee, peignant son autoportrait, surface aux valères planes où les globules rouges des yeux demeurent seuls mobiles dans son visage, nous jette aux yeux la maladie qui a figé ses traits, la sclérodermie. Vassili Kandinsky, prônant un art non figuratif fondé sur la symbolique des couleurs et des formes, affirme l'importance du spirituel dans l'art. D'autres franchiront encore un seuil et feront œuvre d'art avec les structures élémentaires de la nature qu'ils dénomment biomorphes. Ils ignorent que leurs biomorphes anticipent des découvertes de la nature de l'homme lorsque scanners, IRM et biologie moléculaire révéleront les figures de l'infiniment petit humain. Henry Moore, modulant ses figures bicorps, invente à son insu, comme s'il voyait l'invisible, des éléments cellulaires, les ribosomes, qui seront identifiés bien plus tard par la microscopie électronique. Nul ne saurait médire des merveilleuses technologies proposées à l'homme souffrant, et tant mieux si, au-delà de leur intérêt scientifique, leurs figures dotées d'une grande beauté accèdent au statut d'œuvre d'art. Comment ne pas redouter cependant qu'à l'Homo Anatomicus et sa médecine anatomique, les actuels idolâtres de la radiologie, autoproclamés imagères, ne substitue un homo radiologicus, nous assurant sans rire qu'ils ont filmé la conscience. Comment ne pas craindre que les idolâtres de la biologie ne professent un homo biologicus réduit à ses gènes et à ses molécules? Toute création artistique, dirons-nous pour conclure, associe à la nature une part d'indiscernable et d'inexplicable qui la fait échapper aux explications mécanistes, aussi complexes soient-elles. C'est par cette résistance à toutes les réductions que la création artistique manifeste l'essence transcendante de la condition humaine. Je vous remercie.
Monsieur François-Bernard Michel pour son discours et je donne la parole à Monsieur Pierre Rosenberg, délégué de l'Académie française, pour la lecture de son discours intitulé « Poussin et la nature ».
Nous sommes en 1622. Deux jeunes peintres font connaissance. Tous deux sont logés au collège de Laon, un collège jésuite établi sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. L'aîné a 28 ans, il a vu le jour aux Anglies, en Normandie. Son cadet, 20 ans, est né à Bruxelles. L'un et l'autre rêvent d'Italie. Le premier, Nicolas Poussin, a échoué dans ses premières tentatives pour s'y rendre. Philippe de Champagne, pour sa part, on disait au XVIIe siècle, Champagne avait fait halte à Paris sur le chemin de Rome. Bientôt, il s'installera définitivement dans notre pays. Rome, comme Paris quelques siècles plus tard, était la capitale incontestée des arts. La ville connaissait une seconde renaissance, elle faisait rêver. Elle était obligatoire. Les deux jeunes gens se lièrent d'amitié. Le Poussin ayant témoigné à Champagne qu'il souhaitait avoir quelques tableaux de sa main, son ami lui fit un paysage, nous apprend Félibien, que l'on prend rarement en défaut. Un paysage à coup sûr flamand, un genre que Champagne pratiqua par intermittence et avec grand talent tout au long de sa carrière, un genre que Poussin n'abordera jamais. Poussin n'est pas paysagiste, il est le peintre de la nature, sans nul doute le plus grand peintre de la nature, son poète et son philosophe. J'utiliserai régulièrement le mot paysage, mais je voudrais vous prouver que Poussin est le contraire d'un peintre de paysage, d'un paysagiste. Jamais il ne copie la campagne romaine, même dans ses dessins, même s'il s'en inspire. Jamais il en est le topographe. Ce qui n'exclut pas, comme nous le rappelle Sandrart, des promenades régulières dans les collines du Latium, en compagnie de Claude et du Bamboche. Poussin est le poète de la nature, l'interprète du renouvellement de ses cycles, de sa violence et de sa grande puissance. À quand remonte l'intérêt de l'artiste pour la nature? De tout temps, Poussin a orné ses tableaux de plein air et de rochers. Ils servent, de même que les morceaux d'architecture, à caler la composition. Ils ont un rôle d'accompagnement, d'accessoire, selon la formule conventionnelle. Il y a plus. On s'interroge encore sur la réalité du séjour vénitien de 1624, sa durée, son importance, l'influence que purent exercer sur les siennes l'étoile de Giorgione, du Titien ou de Campagnola qui y vit, ce qu'on appelle d'un terme vague le néo-vénitianisme de Poussin. Je vous montre deux exemples de ce moment de sa carrière, la mort d'Adonis et Mars et Vénus. Deux compositions chaleureuses et colorées, lyriques et sensuelles, avec leurs cieux nuageux, leur végétation abondante, leurs arbres feuillus qui se fondent au récit. Rien là qui justifie mon affirmation. Mais déjà, alors que les paysagistes professionnels abondaient à Rome, les Bril, Claude Lorrain, le cadet de Poussin d'une dizaine d'années, et même les Carrache, pour ne citer que les plus illustres, Cassiano dal Pozzo, le monsieur Dupuis, des premiers biographes français du peintre, observait, dans une lettre du 23 mars 1630, que les paysages de Poussin, que l'on payait, je cite, de 15 à 20 écus la pièce, étaient considérés supérieurs de manière à ceux de Filippo Napoletano et de Paul Bril. Il faudra cependant attendre une dizaine d'années pour que la nature fasse son entrée de plein pied dans l'œuvre de Poussin. Je fais allusion au paysage l'un avec Saint Matthieu et l'ange, l'autre avec Saint Jean à Patmos. On en connaît aujourd'hui la date, 1640, quelques semaines avant son départ pour Paris. Poussin, sans doute, avait-il prévu une série de 4 toiles sur le thème des évangélistes. Jean et Matthieu sont immergés dans la nature, une campagne recréée par l'œil du peintre, une campagne généreuse qu'aucun souffle n'agite, ensoleillée et sereine, hors du temps, idéale et éternelle. Dès lors, Poussin consacrera ses pinceaux à une réflexion savante sur la nature, une nature que l'homme tantôt maîtrise et domestique, mais qui bientôt le dominera. Les paysages, après le retour de France, se succèdent à un rythme régulier. Ce sont en tout premier les deux paysages de l'histoire de Phocion qui datent de 1648. On se souviendra de la célèbre et révélatrice boutade du Bernin à Paris en 1665 devant les cendres de Phocion. Se frappant le front, il déclara « Il signor Poussin e un pittore che lavora di là ». L'artiste semble avoir été le premier à transcrire le récit de Plutarque tiré de ses vies des hommes illustres. Phocion, glorieux général d'Athénien du IVe siècle, dut soutenir une politique qui le rendit impopulaire. Ses concitoyens votèrent sa mort. On le força à boire la ciguë. Son corps fut banni d'Athènes, puis brûlé à Mégare, et ses cendres recueillies par sa femme et sa servante. Injustement condamné, il fut rapidement réhabilité. Plusieurs lectures de ses chefs-d'œuvre ont été proposées. Allusion à la situation politique française troublée par les débuts de la Fronde, hommage au stoïcisme du général athénien qui affronte sans se plaindre l'adversité, ou encore à la femme de Phocion qui rassemble ses cendres afin d'en assurer la survie. La nouveauté des deux toiles réside, à mes yeux, dans le peu d'importance que Poussin accorde aux figures qui s'effacent devant le spectacle grandiose de la nature. Illustration exemplaire de l'insignifiance de la vie et de la condition dérisoire de l'homme, œuvre idéale et sublime, ces paysages héroïques ne peuvent être confondus avec aucun autre exemple contemporain. On se souviendra de Fénelon, qui, dans les dernières années du XVIIe siècle, commente, à l'intention du duc de Bourgogne, les funérailles de Phocion. Il s'agissait, grâce à cette œuvre exemplaire et de haute tenue morale, d'éduquer le jeune prince et de rompre avec le monde dépravé, au dire de Fénelon, de Louis XIV. Que dire du paysage avec Diogène jetant son écuelle. Au-delà de la description de la nature, son abondante végétation, les variations de la lumière, il y a cette dimension morale qui s'accorde parfaitement avec les idées stoïciennes que Poussin, grand lecteur de Montaigne, développe dans les années 1650. Diogène tourne le dos à la ville, à la civilisation, comme pour se soumettre aux simples lois de la nature. J'en viens au paysage avec un homme tué par un serpent, dit aussi les effets de la terreur. Je ne m'attarderai pas sur les multiples interprétations qui ont été proposées, parmi lesquelles celle de Fénelon, il utilise le mot caprice, connaît un regain d'actualité. Ce qui retient avant tout, ce sont les effets en chaîne provoqués par la découverte du cadavre au bord de l'eau. L'œil va du mort au passant effrayé, de celui-ci à la femme étonnée, accroupie en plein centre de la toile, au pêcheur enfin, à l'arrière-plan, au bord du lac. Réflexion sur la présence soudaine et inattendue de la mort, Poussin, je cite Diderot, jette au milieu d'une scène champêtre l'épouvante et l'effroi. Épouvante et effroi que l'on retrouve dans le paysage avec Orphée et Eurydice, au sujet comparable, l'apparition brutale, imprévue et irrationnelle de la mort dans une nature idyllique. Alors qu'Orphée célèbre ses noces au son de la lyre, Eurydice, qui cueillait des fleurs, est piquée par un serpent et pousse un cri. Un pêcheur étonné se retourne. Orphée, imperturbable, n'a rien vu, n'a rien entendu. Je vous montre encore pour le seul plaisir, sans m'attarder, le ravissement de Saint-Paul, peint pour Scarron dans les derniers mois de 1649 et les premiers mois de 1650. Le paysage montagneux au lointain, qui accompagne l'étrange ballet des jambes et encadré par un pilastre et un mur percé d'une niche, est enveloppé par la cristalline limpidité de l'air. Le paysage à l'arbre frappé par la foudre, dit l'orage, et le paysage au château, dit le temps calme, résument les ambitions de Poussin dans les années 1650. La qualité de la lumière poudreuse, l'eau froide du lac d'une pureté parfaite, le ciel nuageux d'un bleu laiteux du calme font contraste avec le ciel obscurci et chargé, le vent furieux, les tourbillons de poussière, les nuées et les éclairs qui illuminent les constructions, la pluie qui commence à tomber de l'orage. Comme se font face le pâtre rêveur et les personnages terrifiés et affolés qui s'enfuient. Mais surtout Poussin a opposé une nature impassible et immuable à une nature déchaînée, saisie d'une violence toute pareille à celle des passions humaines. Le Pyrame et Thisbé, en taille un des plus grands tableaux de Poussin, s'inspire de l'émouvant récit d'Ovide. Thisbé, princesse de Babylone, attendait son amant Pyrame sous un mûrier blanc. Une lionne s'approche, qui venait d'égorger des bœufs, la gueule encore ensanglantée. Thisbé prend peur, s'enfuit, abandonnant son voile blanc à l'animal qui, furieux, s'en empare et le déchire. Pyrame arrive sur le lieu du rendez-vous, découvre le voile rougi de sang, s'imagine le pire, pense avoir compris le drame qui s'est déroulé et de désespoir se frappe de son épée. Tisbé revient sur ses pas, découvre son ami qui est en train, son amant en train d'expirer, c'est le moment retenu par Poussin, et se suicide à son tour sous le mûrier dont dorénavant les fruits seront, je cite, « sombres qui conviennent au deuil ». Je me laisse aller à la paresse et cède la plume à Poussin. Sa lettre à son ami, le peintre Jacques Stella, est perdue, mais grâce à Philibien, nous en conservons la transcription. J'ai essayé de représenter une tempête sur terre, imitant le mieux que j'ai pu l'effet d'un vent impétueux, d'un air rempli d'obscurité, de pluie, d'éclairs et de foudre qui tombent en plusieurs endroits, non sans y faire du désordre. Toutes les figures qu'on y voit jouent leur personnage selon le temps qu'il fait. Les unes fuient au travers de la poussière et suivent le vent qui les emporte. D'autres, au contraire, vont contre le vent et marchent avec peine, mettant leurs mains devant leurs yeux. D'un côté, un berger court et abandonne son troupeau, voyant un lion qui, après avoir mis par terre certains bouviers, en attaque d'autres, dont les uns se défendent et les autres piquent leurs bœufs et tâchent de se sauver. Dans ce désordre, la poussière s'élève par gros tourbillons, un chien assez éloigné aboie et se hérisse le poil sans oser approcher. Sur le devant du tableau, l'on voit Pyrame mort et étendu par terre et auprès de lui, Tisbé qui s'abandonne à la douleur. Les déchaînements des forces de la nature accompagnent le déchirement humain, l'absurde et sanglante méprise et les tours tragiques du destin. Nous abordons les dernières œuvres de Poussin les plus pessimistes, les plus subtiles aussi en termes iconographiques, celles où la réflexion du peintre est poussée à son extrême, à son excès, a-t-on parfois dit. De Lorion, cher à Sitwell, à René Char, à Claude Simon, on retiendra l'image insolite du géant aveugle. L'image n'est pas encore sur l'écran. Je vais peut-être attendre. Là, voilà. On retiendra l'image insolite du géant aveugle, guidé par Céladion, juché sur ses épaules, à la recherche, à travers les nuages, du soleil qui lui rendra la vue. Un paysage luxuriant et grandiose, d'arbres, de collines et de montagnes, plein de bruissements et de mystères, enveloppe la scène. Ce que Poussin voulait, c'était représenter allégoriquement la formation et la dissipation des nuages et des orages, peindre les éléments dans leur cycle, la nature dans sa fécondité toujours renaissante, dans sa force créatrice, le soleil comme source de vie. On peut dire du grand homme savant qu'il voyait la nature à travers les lunettes du temps, écrivait en 1817 William Hazlitt. L'homme s'est effacé, les dieux se déchirent et s'affrontent, la nature balaie tout. Il me faut en venir aux saisons. Le testament artistique de Poussin. Ces quatre tableaux sont à juste raison si célèbres que l'on croit tout savoir sur eux. Il n'en est rien. Ils furent peints entre 1660 et 1664 pour le duc de Richelieu, un neveu du cardinal. L'on sait encore que le duc perdit au jeu de paume contre Louis XIV ses 13 Poussins et quelques autres tableaux en sa possession. Cette partie de paume n'était pour le roi qu'une façon élégante de s'approprier les œuvres qu'il souhaitait pour sa collection. Il dédommagea généreusement le duc en lui faisant verser 50 000 livres, mais l'on ignore le prix que Poussin en avait reçu du duc. Plus grave, l'on ne sait pas l'ordre dans lequel Poussin les peignit et à qui revient le choix des sujets et la décision d'orner d'épisodes bibliques les paysages symbolisant les saisons. Les quatre tableaux nous sont si familiers qu'ils ne nous surprennent plus, que chacun d'eux, Adam et Ève, Ruth et Bose, la grappe de Canaan, le déluge, symbolise un âge de la vie, une heure du jour, un épisode biblique dû paraître d'une grande audace. Jamais le peintre n'avait osé exposer à autant d'évidence sa vision pessimiste du dessein de l'humanité, en dépit des serpents du déluge, symbole de rédemption. Jamais, en dépit de sa difficulté à tenir les pinceaux, Poussin n'avait peint avec autant d'amour les verts tendres du printemps, les blés blonds de l'été, les bleus lavandes de l'automne, les gris glaciaux de la pluie interminable du déluge, cet hiver sans neige. Tableau religieux, tableau panthéiste, c'est à nos yeux à dessein que Poussin a laissé planer le doute. On m'en voudrait d'oublier l'exclamation de Corot devant l'automne. Voilà la nature, Corot à qui l'on doit une promenade de Poussin. J'aimerais encore citer ces quelques lignes de Rousseau. Oui, certes, je n'aime guère les tableaux, il n'y en a qu'un seul qui m'ait frappé dans ma vie, le déluge de Poussin. La page de Chateaubriand, de la vie de Rancé, est répétée régulièrement. Ce tableau, le déluge, rappelle quelque chose de l'âge délaissé et de la main du vieillard. Admirable tremblement du temps. Souvent, les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre. C'est leur âme qui s'envole. J'ai cité les lectures de Poussin, Montaigne. J'aurais pu mentionner d'autres auteurs probables ou certains. Tommaso Campanella, Vincenzo Cartari, bien d'autres, sans doute moins nombreux que ne le croient les nouveaux poussinologues. D'où Poussin tenait-il sa culture, qu'il a souvent servi, mais également lui a nui, en le faisant passer pour un artiste ennuyeux et trop savant, un mot que je n'ose employer ici, un peintre académique, faisant oublier surtout le peintre. je souligne le mot, qu'il n'avait jamais cessé d'être. Poussin fut sans nul doute un lecteur consciencieux et scrupuleux et concentré. Il aimait les théories, les idées, mais aurait-il lu tous les ouvrages qu'on lui prête, pas un instant ne lui serait resté pour peindre. Qu'a-t-il retenu de ses lectures? Qu'en a-t-il retiré au fil des ans? Sans nul doute quelques précisions archéologiques qui lui tenaient à cœur, mais surtout une philosophie que dans ses lettres, à plusieurs occasions, il tenta d'exposer. Nous n'avons rien en propre, nous tenons tout à louage. En l'occurrence, Poussin emprunte sa citation à Montaigne, ce Montaigne qui fut son livre de chevet. Une méditation sur la condition humaine, une soumission de l'homme à la nature dans un déroulement cyclique en furent, dans les dernières années de sa vie, les clés. L'extraordinaire est d'avoir su, avec le seul recours de ses pinceaux, nous la faire partager. J'ai négligé bien à tort les austères dessins de paysages de Poussin. J'aurais souhaité évoquer les tableaux de Gaspard Duguay, son beau-frère qui ne fut que paysagiste, et ceux, admirables évocations, d'un âge d'or évanoui de son ami Claude, peintre de la mer, par opposition à Poussin, peintre de la route. J'aurais pu mentionner son compatriote Corneille et Cézanne, que l'on célèbre cette année et dont on cite trop souvent la formule « refaire du Poussin sur nature ». Bien entendu, Poussin peignait dans son atelier de la Via del Babuino, alors que le maître d'Aix se déplaçait, son attirail de peintre sur le dos, aux environs de la ville, du Château Noir à la montagne Sainte-Victoire. À la vérité, l'impeccable et implacable ampleur de ces paysages, traités par le cylindre et par la sphère, sont, plus éloignés qu'on ne le dit, des ultimes compositions de Poussin, intellectuelles et réfléchies, sensibles et émouvantes. Je conclurai sur une citation moins connue de Cézanne. « Je voudrais, comme dans le Triomphe de Flore, unir les courbes des femmes à des épaules de colline. Je voudrais, comme Poussin, mettre de la raison dans l'herbe et des pleurs dans le ciel. »
Vous venez d'écouter la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui s'est déroulée le mardi 24 octobre 2006 sous la coupole. Elle était présidée par André Damien, président de l'Institut de France et président de l'Académie des sciences morales et politiques. Le thème retenu cette année était « L'homme et la nature ». Se sont exprimés, dans un premier temps, Jacques Joannat de l'Académie des inscriptions et belles-lettres « Aux racines de la nature de l'homme ». Ensuite, Emmanuel Leroy-Ladurie de l'Académie des sciences morales et politiques sur « L'historien du climat face aux famines, aux disettes et aux révolutions ». Ensuite, Hervé Letreux de l'Académie des sciences sur le sujet « Changement climatique, perspectives et implications pour le XXIe siècle ». S'est également exprimé François-Bernard Michel de l'Académie des beaux-arts sur le thème « La nature et l'art semblent se fuir ». Et enfin, Pierre Rosenberg de l'Académie française sur « Poussin et la nature ».